Chapitre 16. Ne crois pas que le serpent lyre, qui déploie ses plus belles couleurs pour te charmer, a pour autant perdu son mortel venin. C'est alors qu'il est le plus dangereux. Maxime du deuxième anneau sbaraïque. Meilleur et pire des choses qu'affection, liant aux amis, trouble l'eau claire de l'intuition, entraîne mauvaise décision. Que sait-on de la sincérité des amis? Stance platonienne. Bien qu'il fût réveillé plus tôt que d'habitude, avant même Stanislav Nolustriste, qui d'ordinaire le précédait de 3 bonnes heures, Tixou avait l'esprit parfaitement clair. Cela faisait maintenant 4 jours qu'il rongeait son frein sur Markina. Troublé par un nouvel appel d'Afikit, il sortit de la maison du berger, non sans avoir pris la précaution de poser une chaude couverture de laine sur ses épaules nues, et s'assit sur une grosse roche. La froidure de la nuit lui mordit à la peau. Le mince croissant mordoré de vent de sable, le dernier des satellites nocturnes de Markina, jetait des lueurs orangées sur l'indigo du ciel dégagé et pailleté d'étoiles. Un silence paisible ensevelissait l'échine de la marquise, dont les reliefs accidentés formaient une ombre gigantesque et placide. Quelques lumières éparses trouaient le lointain gouffre noir dans lequel s'était englouti Duptina. L'antra refit spontanément surface. L'esprit de Tixou s'en empara avidement, comme s'il lui était tout à coup devenu indispensable. L'orangien s'inquiétait de cette sensation de dépendance, mais en même temps, il ressentait intuitivement la nécessité de l'action purificatrice du son. Il revécut ainsi quelques scènes de sa petite enfance. Il entendit de nouveau la voix légèrement voilée de sa mère l'entretenir de ce père qu'il n'avait pas connu. Elle le prenait tendrement dans ses bras, l'enfouissait contre sa poitrine. Ses longs cheveux couleur d'ambre caressaient ses joues rebondies. Il erra avec elle dans les rues animées de Foussille. Il découvrit avec émerveillement les étalages des jouets multicolores. Elle lui acheta un amuse-temps électronique, un vieux casse-tête qui l'occupa un bon moment. Il s'assit à côté d'elle sur un banc public auto-suspendu dans l'un des parcs fleuris de la ville. Comme ses petites jambes nues et nerveuses pendaient dans le vide et s'agitaient sans cesse, elle lui donnait de légères tapes sur les cuisses en riant. Il l'observa par en dessous tandis qu'il mangeait des confiseries tellement sucrées qu'elles en étaient écœurantes. Elle lui parut lointaine, mais immensément belle et désirable. Il eut honte de ce désir, car il sentait que ce n'était pas un désir d'enfant. Il en voulut à ce père fantôme, ce lâche qui était parti pour un pays inquiétant et fascinant qu'on appelait la mort. La nuit suivante, sa mère l'avait amené chez son oncle, puis elle était partie en taxi-boule pour aller rendre visite à une amie dans la ville voisine de Betsabée. Sa tante vint le tirer sans ménagement de son sommeil. C'était une nuit où les 6 étoiles en soleil brillaient d'un éclat rouge particulier, l'éclat du sang céleste. On le poussa devant un lit sur lequel sa mère était allongée, mains croisées sur la poitrine. Elle ne bougeait plus, elle ne respirait plus. Hébété, il contempla son visage blanc et paisible, auréolé du soleil ambré de ses cheveux. Elle le laissait désormais seul et désemparé dans le monde des vivants. On lui dit que le taxi-boule s'était écrasé et qu'elle était partie rejoindre son père dans le royaume merveilleux de la mort. Il se demanda ce que ce pays avait de si attirant pour qu'elle abandonnât son petit garçon de la sorte, elle qui avait toujours prétendu l'aimer plus que tout au monde et ne jamais plus le quitter. Sa mère était donc une menteuse comme tous les autres. Il pleura sans savoir pourquoi les larmes jaillissaient de ses yeux fatigués. Peut-être tout simplement parce que c'était un immense soulagement, parce que c'était une sensation agréable que de sentir un peu de tiédeur sur ses joues. La tante le pressa contre sa poitrine, comme sa mère savait si bien le faire, mais il ne ressentit que la froideur de ce geste indifférent, de cette odieuse caricature d'amour.
« Vous voici devenu bien matinal, Bilot !»
Entièrement nu, emmitouflé dans la seule broussaille de ses poils, bras en arc de cercle au-dessus de sa chevelure emmêlée, Stanislav Nolustriste s'étirait nonchalamment devant la porte entr'ouverte de sa maison. Sa voix caverneuse avait réveillé quelques mutules allongées près de la barrière rocheuse du pré en contrebas. Il s'était redressé, sans s'en alerte, toison noir parcouru de longs frissons, prêt à fuir ou à charger. Brutalement ramené à la réalité, Tixou se rendit compte à sa grande confusion que des larmes glissaient sur ses joues. Il les essuya d'un furtif revers de main et ramena un pan de la couverture sur son visage pour masquer sa gêne. Le berger s'approcha, pointa son bras vers les étoiles et dit
« Regardez le ciel. Vous voyez cette étoile-là ? Juste à droite du croissant de vent de sable. Eh bien, c'est vous. Elle vous représente. Elle va bientôt sortir du ciel comme vous allez sortir de ma vie. Elle est pourchassée par les ténèbres comme vous êtes pourchassée par la mort. Elle doit briller d'un vif éclat si elle ne veut pas être engloutie par la nuit. Vous devez faire preuve d'un très grand désir de vie si vous ne voulez pas être fauchée par la mort. Son destin, comme le vôtre, dépend entièrement de l'énergie dont elle dispose. Et vous, Bilot, aurez-vous suffisamment envie de vivre pour déjouer les pièges de la faucheuse ?»
Avant que Tixou n'ait eu le temps de réagir, Stanislav Nolustriste partit d'un énorme éclat de rire.
« Par les couilles de maître mutule, je vois bien que je vous emmerde avec mes radotages. « Allons plutôt au torrent. L'eau nous rafraîchira le corps et les idées. Hier, vous n'êtes pas venu ?»«
L'eau est un peu trop froide pour moi, » plaida Tixou sans conviction. L'orangien, de nature frileuse, était sidéré de constater à quel point le berger demeurait insensible, hermétique au froid.
« Elle n'est pas froide !»
s'exclama Stanislav Nolustriste.
« Elle est seulement remplie de la paix de la nuit. » « Venez, vous dis-je, vous vous sentirez mieux après. »
Il rentra dans la maison, en ressortit quelques secondes plus tard vêtu d'une longue tunique de laine écrue, et prit la direction du torrent. Hésitant, Tixou finit par lui emboîter le pas, enveloppé dans sa couverture. Les perles glaciales de rosée s'écrasaient sous la plante de leurs pieds. Leurs bouches soufflaient d'éphémères nuages de condensation. Une clarté blafarde, diffuse, ourlaient les crêtes indécises de la chaîne montagneuse. Bordé de pins argentés, le torrent dévalait la pente accidentée et ses gerbes écumantes giflaient les rochers enracinés dans son lit tumultueux. Son grondement rageur créait une large brèche dans le silence de l'aube. Le sentier se rétrécissait et menait à une petite crique, abritée derrière un surplomb rocheux, où stagnait une eau plus calme. C'est là que Stanislav Nolustriste plongea sans hésitation après avoir jeté sa tunique par-dessus tête. Tixou se défit de sa couverture et s'engagea du bout des orteils dans le torrent. Sa peau nue, offerte à la fraîcheur du jour naissant, fut parcourue de frissons dissuasifs.
« Eh bien, venez !» cria le berger. « Elle est merveilleuse ! Faites comme avec les femmes ! Ne jouez pas les timides, plongez !»
Mais Tixou, transi, grelottant, bras croisés, refusa d'avancer. Stanislav se rapprocha et l'aspergea brusquement de gerbes glaciales. Piqueté de milliers d'aiguilles saisies, souffle coupé, l'orangien n'eut d'autre ressource que de s'immerger à son tour dans le sein clair et frisquet du torrent. Lorsqu'ils en sortirent un bon quart d'heure plus tard, Tixou fut obligé de reconnaître que ce bain forcé lui avait fait le plus grand bien, même s'il ne l'avait pas entièrement débarrassé de l'entêtante et rance odeur de mutule qui imprégnait ses narines, ses cheveux et sa peau. Il s'essuya vigoureusement avec sa couverture. « Je vais partir, Stani. »«
Je le savais depuis le début, » murmura le berger avec un sourire triste sous la barbe noire parsemée de gouttes irisées. « Le ciel ne me ment jamais. » Je vous regretterai. J'appréciais votre compagnie. Mais vous avez mal choisi votre jour. Les fêtes de couronnement du nouvel empereur commencent aujourd'hui.
Je ne peux plus attendre, poursuivit Tixou qui s'adressait autant à lui-même qu'à son interlocuteur. Je n'ai plus le temps. Je suis décidé à tenter le tout pour le tout. Je trouverai un moyen de partir d'une manière ou d'une autre. Les compagnies de transfert rouvrent ce matin, mais quoi qu'il arrive, je ne reviendrai plus chez vous.
Des auréoles sombres maculaient la tunique de laine de Stanislav Nolustriste, debout, songeur sur le bord du torrent. La brise matinale jouait dans quelques mèches de sa chevelure détrempée.
« Quand quelqu'un est décidé comme vous l'êtes, l'ami, les cieux se débrouillent pour exaucer son désir. D'ailleurs, c'est parce que les étoiles m'avaient prévenu de votre départ que je vous ai quasiment obligé à prendre ce bain. Cette eau est en effet sacrée. Nul n'a jamais trouvé sa source, et la raison en est simple. Ce torrent sort directement de la bouche de Dimuta, la bienfaisante, la déesse de l'eau. Ses vertus purifiantes ont le pouvoir d'éloigner momentanément ceux qui accomplissent la volonté de Brouaer, le démon du néant. Et vous aurez besoin de l'aide de Dimuta dans les jours qui viennent. Au fait, quel est votre vrai nom ?
Tixou dévisagea Stanislav. La méfiance avait déserté les yeux gris-bleus de l'orangien.
Tixou Oti, d'Orange. Mais tâchez de l'oublier, Stani. Si jamais les inquisiteurs mentaux entraient dans vos pensées, nous risquerions, vous et moi, les pires ennuis.
Je me baigne chaque jour dans cette eau, se récria le berger. Que voulez-vous qu'il m'arrive de fâcheux ?
Aussi simpliste et naïve que put paraître cette croyance, Tixou pressentit qu'elle était juste et que Stanislav Nolustriste était protégé. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour moi. En ce qui concerne l'argent que je vous ai dépensé, je ne pense pas que je puisse...
Par les couilles de mes mutules, gronda le berger. Une autre parole de ce genre et je vous balance à la flotte. Vous allez finir par m'offenser avec cette histoire d'argent. Mon instinct me dit qu'il y a en vous une part de divin, une part qui m'est inconnue mais dont je devine l'importance. Pensez-vous que le divin me soit redevable d'une misérable poignée de duquins marquinatins ? Je préfère croire qu'il me délivrera de quelques-unes de mes faiblesses, et elles sont nombreuses, en compensation d'un si piètre service. Et si vous rencontrez des difficultés insurmontables, sachez que vous pourrez toujours trouver refuge dans ma modeste demeure.
Une heure plus tard, après le repas du salut à Roi d'Argent, Tixou prit congé de son hôte qui lui remit à tout hasard
« Et ne vous avisez surtout pas de refuser !»
une somme de 100 duquins marquinatins. La main calleuse de Nolustriste pressa longuement, chaleureusement, celle de l'orangien. L'émotion qui les étreignit les priva tous les deux de l'usage de la parole. Par le chemin empierré frôlant les précipices, Tixou franchit d'un pas allègre la distance qui séparait la maison du berger des premiers faubourgs de Duptina. Roi d'Argent entamait sa longue course dans le ciel. Il peignait les nuages et la brume d'une couche argentine. Tixou entendit dans le lointain le chant nostalgique de Stanislav Nolustriste, qui se répercutait de colline en colline. Il n'eut pas besoin de comprendre le sens des mots pour percevoir l'amitié et la tristesse contenues dans la voix grave et puissante du berger. Malgré l'heure matinale, Duptina feignait d'être en liesse. Sous la surveillance discrète mais sévère d'escouades d'interliciers en combinaison indigo et de mercenaires de Prithiv sanglés dans leur uniforme gris, une foule dense, bruyante et colorée se répandait dans les artères et les places de la capitale marquinatine. Les passagers s'entassaient tant bien que mal dans les compartiments des ovalibus qui faisaient le plein à chaque station aérienne. Tixou crut étouffé à plusieurs reprises. Les Duptinatins participaient à la fête avec d'autant plus de zèle qu'ils craignaient les représailles féroces de leur nouveau maître doté d'inquiétants pouvoirs psychiques. Personne n'étant à l'abri des inquisitions mentales, nul ne s'avisait de montrer un signe extérieur de désaccord ou même d'indifférence qui eût attiré sur lui l'attention des Scaïtes ou des Creutziens.
Les Duptinatins s'étaient donc parés de leurs plus beaux atours, et leurs visages poudrés, grimés, exprimaient une joie forcée encore plus démonstrative que s'il s'était agi de l'un des multiples carnavals locaux. L'ovalibus volait au-dessus de lampadaires autosuspendus qui lançaient des éclairs phosphorescents sur les toits gris bleus de la cité. Tixou descendit à la place Jatchai-Wortling, noire de monde, au centre de laquelle, à proximité de la croix de feu où agonisait Dame Armina Wortling, avait été dressé un immense écran bulle au lot. Il trônait sur une estrade géante, recouverte d'un tissu siracusain à reflets changeants, orné de fleurs naturelles blanches et de motifs géométriques à émulsion lumineuse. L'heure n'était pas très bien choisie pour de telles réjouissances, mais un texte nafle défilait à l'intérieur de l'écrambule et expliquait au bon peuple marquinatin que les astronomes impérieux avaient composé de leur mieux avec le décalage planétaire et avaient fait en sorte que chaque planète vassale du Nouvel Empire, selon son importance démographique, put assister en direct au sacre de Menati Hang. Tixou joua des épaules et des coudes pour fendre la multitude compacte, mosaïque mouvante de couleurs, de formes et de cris, traquée par une meute enragée de camelots ambulants. Il se rendit non sans mal jusqu'au pied de la croix de feu. Les Duptinatins s'accoutumaient rapidement à la présence des sinistres roues transparentes de l'église du Kreutz, et se désintéressait du sort de celle qui avait été l'épouse du seigneur Abaski le bien-aimé. Ils effaçaient de leur mémoire les images encore fraîches du passé, s'adaptaient à la nouvelle situation avec une versatilité et une futilité sidérantes. La peur leur procurait une nouvelle occasion de rétrécir leur espace individuel. Dame Armina avait cessé de vivre. Les reliefs informes de son visage, soudés à son torse, n'exprimait plus la souffrance mais l'apaisement. Ses orbites étaient noires et emplies de débris de chair brûlée. Ses yeux miroirs, fracassés d'une âme en partance, avaient éclaté. Ce qui restait de son corps n'était pas beau à voir. Peau gondolée, lacérée, déchiquetée, plaie d'où suppurait une humeur jaunâtre, crâne fendillé sur lequel ne subsistaient que de rares touffes de cheveux, comme un chaume sur une terre noircie par l'incendie. Un sentiment de compassion pour cette femme qu'il ne connaissait pas mais dont il ressentait dans sa propre chair l'abominable calvaire envahit Tixou. Il n'y avait aucune clémence à attendre du clergé creudien qui, avec l'appui des scaïdes inquisiteurs mentaux, pourrait désormais donner libre cours à son fanatisme aveugle et à sa rage de répression. L'église commençait à semer à tous les coins de rue les corps torturés des hérétiques, de ceux dont le seul tort était de croire en d'autres possibles expressions du divin. Elle faisait payer aux autres sa propre terreur et sa propre haine des sens. Le souvenir du missionnaire de deux saisons accoutré de son col encore safran sale et troué, de son emphase de prophète dérisoire qui déclenchait l'hilarité générale dans la taverne des trois frères, remonta subrepticement à la surface de son esprit. Un murmure parcourut la foule rassemblée sur la place. Une lumière blanc et or emplit l'écran bulle, d'une hauteur de 50 mètres. Les premières mesures d'un hymne à plein phonique retentirent par les récepteurs audio superfluides suspendus, annonçant le début de la retransmission bullovisée. Une clameur de stupéfaction émerveillée jaillit des milliers de bouches lorsque l'image holographique du nouveau palais impérial de Vénétie vint occuper toute la bulle. La splendeur et la complexité baroque du bâtiment laissaient pantois les Duptinatins, habitués à une architecture austère, fonctionnelle certes, mais, ils s'en rendaient compte à présent, lourde et sans grâce. Ils s'extasièrent bruyamment sur les innombrables tourelles blanches aux toits effilés, recourbés, couverts de fines feuilles d'optallium rose, sur la façade principale bleutée, enjolivée de centaines de sculptures lumière aux reflets subtilement assortis, sur les hautes murailles latérales, où les artistes avaient disposé des tableaux à géométrie variable, sur l'herbe fuchsia et les allées de gemmes blanches du parc, sur les spuniers géants et translucides qui bordaient le perron de jaspe et de lapis-lazuli, sur les albotoès aux frondaisons multicolores, les fleurisiers écarlates, les empassettes noirs et blancs d'une sobre et suprême élégance, les jajazitiers,
aux larges feuilles formant une fine dentelle de cuivre et d'or, et enfin les rarissimes arborivoles, dont les cimes flottantes et reliées au sol par de fines et souples lianes transparentes surlignaient de mauve cette fabuleuse luxuriance végétale. Pour la plupart des dubtinatins massés en cette aube fraîche sur la place Jatschai-Wörtling ou en d'autres endroits de la cité, c'était le premier contact avec la civilisation syracusaine. Ils étaient subjugués, éblouis, conquis. Les merveilles que dévoilaient les crambules leur faisaient tout à coup oublier les désagréments de l'occupation de leur planète par ces mêmes syracusains et leurs alliés. Des commentaires enthousiastes volaient d'une bouche à l'autre comme des oiseaux sautant de branche en branche. Ils relevaient les détails du palais, les nuances des sculptures lumières, la largeur des marches brillantes de l'immense escalier principal, les formes ovales, rondes ou hexagonales des bassins de bois pourpre ou or, les motifs des colonnes de marbre blanc striées de veines bleutées, les courbes délicates, scintillantes et éphémères des jets d'eau crachés par les gueules des animaux d'optallium blanc. Tixou fut surpris de la vitesse avec laquelle les marquinatins se laissaient séduire, envoûtés par leur nouveau maître que, quelques minutes plus tôt, ils vouaient aux 10 000 diables les démons des légendes et cultes de leurs inextricables religions. Et l'émerveillement alla croissant lorsque le cortège impérial se forma sur le vaste perron du palais. Au premier rang venait Barophile le 24e, le moufti de l'église du Kreutz, dont le titre s'inscrivit en lettres de feu sur la paroi convexe de la bulle. Le moufti, un vieillard ratatiné, disparaissait dans une ample chasuble violette qui dissimulait en grande partie son col en cor grenat. La tiare mufiale, sertie d'antiques rubis sans de pigeon, saignait sa tête ridée, chafouine. Il portait la crosse sacrée d'optallium doré du berger infaillible, le symbole du pasteur des peuples, du rassembleur des âmes, du représentant suprême du Kreutz sur les mondes de l'en bas. L'armée pourpre et mauve des cardinaux et grands-pères de l'Église l'escortait en bon ordre, elle-même suivie de l'escouade noire et lugubre des hauts vicaires du palais épiscopal, des cohortes blanches et safran des évêques des missions, et enfin de la nuée bleue et gris des administrateurs, des novices et des enfants du culte. Et les dubtinatins, dominés, écrasés par le gigantesque écran relief, d'admirer sans pudeur la magnificence de cette église, de s'enivrer de la vue des chatoyantes tenues ecclésiastiques, en comparaison desquelles paraissaient bien ternes, bien pauvres, les robes chagrines et chichement brodées des officiants de leur culte, d'oublier la proximité indécente de la croix de feu qui avait transformé leur souveraine en une répugnante masse de chair calcinée. La caméra de Bulovision plongea ensuite sur le cortège des grands courtisans, placés selon l'importance et l'ancienneté de leur famille. Devant tant d'élégance, devant ces assortiments raffinés de couleurs, ces somptueuses étoffes dont le luxe ridiculisait leurs vêtements pourtant soigneusement choisis, les dubtinatins ne purent se retenir d'applaudir, manifestation qui aurait paru totalement déplacée sur Syracusa mais qui, sur Marquina, était naturelle. Les joyaux étincelants, les parures fastueuses, les airs pompeux, affectés, les visages poudrés et encadrés de mèches torsadées, les démarches aériennes et la réserve compassée de ces messieurs et dames de la cour vénitienne ébahissaient le bon peuple marquinatin et, pensa Tixou, probablement tous les autres peuples de l'univers recensés. Après les courtisans venaient les pelotons compacts des skites d'Hipponéros, groupés selon leurs fonctions, par couleur d'acaba, blanches brodées de lisérés rouges pour les protecteurs, noires pour les inquisiteurs de l'église, vertilleuls pour les lecteurs profanes. Les capuchons rabattus sur leurs visages dissimulaient leurs traits. Chaque formation était séparée de la suivante par des rangs serrés d'interliciers et de mercenaires de la secte de Prithive, dont les masques blancs et rigides donnaient l'étrange impression qu'il s'agissait d'un seul et même individu multiplié à l'infini. Un frémissement d'effroi parcourut la place Jatschai-Wörtling.
Les Marquinatins avaient déjà eu un aperçu des redoutables pouvoirs des Skaïtes. Enfin, fermant le cortège qui se rendait en procession solennelle du palais impérial jusqu'au palais épiscopal, juché sur une plateforme auto-suspendue jonchée de fleurs luminéphèmes, encadrée de la garde impériale composée de mercenaires de Prithive, triés sur le volet et revêtus de combinaisons et de masques noirs, se tenait le Skaïte Pamynx, grand connétable de l'Empire, drapé dans son akaba bleu, et l'empereur, Menati Hang, deuxième fils de l'illustre seigneur Argeti Hang, et frère du seigneur Ranti récemment décédé. Les représentants des plus nobles familles, celles qui avaient vaincu le comité planétaire et rétabli l'hégémonie de la noblesse, portaient l'interminable traîne de son manteau blanc et or. Des gemmes rares sertissaient par centaines son col en corps indigo, pan de ciel nocturne criblé d'étoiles. Et une couronne haut immaculée ceignait sa tête. Il saluait d'imperceptibles gestes de la main la foule des Syracusains immobiles, entassés derrière d'invisibles barrières magnétiques. Une voisine de Tixou affirma que son visage altier, quoique carré et un peu rude, faisait, ma foi, un fort acceptable visage d'empereur.
Et cette longue mèche qui descend de sa tempe à son menton, vous ne trouvez pas que ça lui donne un air à la fois viril et raffiné ?
Renchérit une autre. Les yeux noirs du Hang, en gros plan sur l'écran bulle, brillaient d'un éclat triomphal tandis qu'un sourire satisfait et carnassier se dessinait sur ses lèvres minces et teintées de vermillon. Tixou estima qu'il en avait assez vu et décida de partir avant les assommants discours officiels. Cette mise en scène, au demeurant parfaitement orchestrée, lui semblait outrageuse et inconvenante devant la dépouille de Dame Armina Wertling. De plus, le fait d'assister passivement à cette retransmission lui faisait perdre un temps précieux. Il s'extirpa avec difficulté du magma humain. Les bulots spectateurs qu'il dérangea lui décochèrent des regards courroucés, venimeux. Il s'engagea au hasard dans une ruelle, partout sur les places, à chaque intersection de rue, à chaque venelle, dans chaque traboule, les écrambules plus ou moins volumineux selon l'importance des lieux, répercutaient l'image du sacre comme autant de tableaux vivants à la lumière savamment distillée. Partout il rencontra des regards hypnotisés, rivés sur les bulles, des têtes levées, des corps immobiles. Dubtina s'était peuplé de fantômes. Il déboucha sur une large avenue bordée d'eau guineuse. Il se laissa machinalement porter par ses pas, et lui fallait maintenant se mettre en quête d'une agence de voyage. Les 100 ducats qu'il avait en poche n'étaient pas suffisants et de loin pour acheter un transfert. Mais s'il savait faire preuve de la même force de persuasion qu'Afikit dans sa propre agence de 2 saisons, il parviendrait peut-être à fléchir un employé. Une voix de femme l'apostropha.
« Tixou ! Tixou Oti ! Ça alors ! Hé, Tixou ! »
Il se retourna. Après un moment d'hésitation, il reconnut la silhouette de Babsé O'Brien, sa compagne et accessoirement maîtresse du stage de formation de la CILT sur Ours. Il n'eut pas besoin de l'observer longtemps pour se rendre compte que le fruit vert et acide qu'elle était alors, avec ses joues rebondies et fermes et son corps juvénile, avait trop tôt mûri. Elle s'était desséchée, racornie, avait sacrifié ses longs cheveux châtains, cette chevelure où s'accordaient encore des lambeaux de l'enfance. Elle les avait coupés ras en brosse et les avait teints en noir comme pour durcir son visage. Elle s'était épaissie, condensée, et bien qu'elle portât un élégant ensemble issigorien, veste et jupe fendue blanche, elle s'était dépouillée de sa grâce aérienne d'autrefois. Dans ses yeux noisettes, jadis pétillants et sans cesse en mouvement, ne brillaient plus les étincelles de malice enjouée qui faisaient d'elle une compagne agréable et recherchée. Parvenue à sa hauteur, elle esquissa un sourire timide.
« Toujours aussi bavard, hein ? Eh bien, dis quelque chose. Tu me reconnais pas ?»
Sa voix elle-même avait perdu cette verdeur acide dont Tixou s'était maintes fois moqué pendant le stage. Elle se voilait à présent d'aigreur. Mais en réalité, ce qui surprenait le plus l'Orangien, c'était que cette apparition soudaine et apparemment fortuite de Babsé coïncidait de manière étrange avec les souvenirs que l'entra avait fait remonter à la surface de sa mémoire les jours précédents. C'était comme si le son de vie l'avait préparé à cette rencontre.
« Salut, Babsé !» dit enfin Tixou, sortant de sa torpeur. « Qu'est-ce que tu fabriques ici ?»«
Ce serait plutôt à moi de te demander ça, » répondit-elle d'un ton agressif. « Si je suis ici, c'est tout simplement que je suis responsable de l'agence de Duptina. »
Alors, comme ça, tu as été muté sur Markina? Les choses ont l'air de bien marcher pour toi. »
Même en essayant de se replacer dans le contexte d'ours, Tixou ne ressentait aucune émotion et ne comprenait pas ce qui avait pu l'attirer chez cette fille.
« Ouais, pas mal. Ici, à Duptina, ça va plutôt bien. J'ai pratiquement récupéré toute la clientèle des hommes d'affaires en transit dans le secteur. D'ailleurs, il faut que j'y aille. C'est l'heure universelle d'ouverture des agences de la région Grand Est. Et tu sais comme moi que la compagnie déteste qu'on soit en retard. La direction a tenu à ce qu'on ouvre dès le lever du décret de réquisition. On ne risque pas d'avoir grand monde, c'est le jour du sacre impérial. »
Tixou se dit qu'il avait peut-être trouvé la solution à son problème.
« Je t'accompagne, si tu veux, » proposa-t-il à Babsé.
« Bonne idée, je te ferai visiter l'agence. » Et puis, on pourra reparler du bon vieux temps. 6 années standard, un sacré bail, hein? J'espère que je vais bientôt changer d'affectation. J'en ai ma claque de Duptina. Les gens sont sympas, mais un peu ploucs, si tu vois ce que je veux dire. Des baritoles, comme disent les Syracusains. D'ailleurs, j'ai demandé ma mutation à Vénétia, là où tout se passe. Mais je n'y crois pas trop. Je suis un peu jeune dans la compagnie pour prétendre au meilleur poste.
Tout en cheminant d'un pas rapide en direction de l'agence CILT, située quelques rues plus loin, ils devisèrent de tout et de rien. Il apprit qu'elle avait failli se marier avec un gros négociant d'oranges.
« Comme toi, il aurait été mon deuxième orangien. »
Mais elle s'était rétractée au dernier moment car ce mariage aurait constitué une entrave à son avancement dans la hiérarchie de la compagnie.
« Tu sais comment ils sont à la direction. » Il considère que les employés n'ont pas besoin d'autre famille que la CILT.
Tixou sut également toute de la stratégie commerciale de Babsé, du pourquoi et du comment elle s'y prenait pour rafler la clientèle des autres compagnies.
« Et toi, comment est-ce que tu fais ?»
De ces incessantes bagarres avec la direction.
Elle hésite trop à investir dans un matériel moderne ou, disons, moins archaïque et de nos jours, arriver complètement à poil, ça ne fait pas très sérieux. La boîte y perd de sa crédibilité, tu ne trouves pas ?
Aux questions qu'elle ne manqua pas de lui poser, Tixou fournit des réponses tellement évasives qu'il ne réussit qu'à aviver sa curiosité. Il tenta de s'en sortir en prétextant un passage éclair sur Markina, une simple étape pour un transfert sur Orange où il souhaitait aller rendre une dernière visite à son oncle et tuteur gravement malade.
Par des rémates privés, ça aurait été trop long de passer par la voie hiérarchique de la compagnie.
« Ouais, enfin, ça te regarde ?»
murmura-t-elle avec une lueur de scepticisme dans le regard.
« Ton ami, là, celui qui possède ce déromate, il doit avoir le bras long ou être complètement inconscient. Toutes les bécanes privées ont été confisquées à leurs propriétaires. Quant aux bécanes des compagnies, elles sont maintenant toutes reliées à un mémodisque central installé au siège de Vénétia. » Le résultat, c'est que ça a entraîné une baisse sensible de la clientèle.
C'est la même chose sur deux saisons ?
Oui, bien sûr, bredouilla Tixou. Ils sont curieux, ces types, les Skaïtes. On ne peut rien leur cacher. Il vaut mieux être leur allié, tu ne crois pas ?
Tixou changea de sujet. Il s'étendit en long et en large sur le climat de deux saisons, sur la pluie incessante, sur les lézards des fleuves, sur les Sadoumbas, sur la forêt profonde et sur la taverne des trois frères. Ils arrivèrent en vue de l'agence. Le champ bleuté et grésillant du volet magnétique brillait entre deux auguineux. L'immeuble droit et gris ne se distinguait des autres que par l'enseigne holographique et clignotante CILT. Celle-ci avait 4 lettres sur 4. C'était probablement l'agence la mieux tenue de l'univers connu et inconnu, enchâssée sous le dôme de tuiles bleues. Babsé s'immobilisa soudain devant le boîtier de reconnaissance d'empreintes ADN, fixé sur le montant de la vitrine, et enfonça son regard dans celui de Tixou.
« Bon, arrête de déconner et de me prendre pour une idiote, » lâcha-t-elle d'une voix sèche.
«
Pour passer de deux saisons sur Orange, on ne prend pas Marquinave comme relais. Ça fait même un sacré détour. Figure-toi, Tixou Oti, que quand on s'est quitté à la fin du stage, j'ai pris le temps de regarder sur une carte holo pour savoir où se trouvait cette fichue planète de deux saisons. Alors maintenant, soit tu me fais confiance et tu me dis tout, soit tu fous le camp. Tixou comprit qu'il risquait de tout perdre en continuant de s'enferrer dans ses mensonges et qu'il valait mieux entrer dans le jeu de l'Issigorienne.
Ça serait trop long à t'expliquer, Babsé. En gros, j'ai plaqué l'agence. J'ai atterri ici par hasard et je n'ai pas assez d'argent pour payer un nouveau transfert. Pourtant, il faut que je parte, c'est très important.
Babsé le dévisagea sans se départir de son air sceptique. Tixou eut l'impression que ce qu'il venait de raconter à l'Issigorienne lui paraissait trop gros pour être vrai.
« T'as plaqué la compagnie ? » s'exclama-t-elle incrédule. « Comme ça, sans prévenir ? T'es complètement dingue ou inconscient ou les deux ? Tu sais ce que c'est d'avoir un inspo-bot sur le dos ? Il ne te lâchera jamais, il a tes coordonnées cellulaires. Tu peux être sûr qu'il te retrouvera et qu'il te ramènera par la peau du cul, même si tu te terres sur les mondes non recensés dans les confins. »
Elle réagissait comme une employée parfaitement conditionnée, comme un bon petit soldat.
« Possible, mais je n'ai plus le choix, » dit Tixou. « Est-ce que tu peux m'aider ?»
Elle tira nerveusement sur ses courtes mèches noires.
« Je ne sais pas. Entrons dans l'agence. L'heure de l'ouverture va bientôt sonner et le moment n'est pas franchement idéal pour attirer l'attention de la direction. »
Elle glissa ses doigts dans le boîtier de reconnaissance ADN. Le volet magnétique se dissipa et la porte disposée sur le côté de la vitrine s'ouvrit automatiquement. Ils pénétrèrent dans l'agence juste au moment où la voix synthétique de l'hôtesse retentissait par le canal interne ASF de la compagnie. L'agence de Duptina était composée de plusieurs pièces en enfilade, claires, propres, sobrement meublées. Elle soutenait sans problème la comparaison avec le bureau sordide de deux saisons.
« Planque-toi dans un coin !»
ordonna Babsé, nerveuse, irritée.
« Les caméras témoins vont se déclencher et je ne tiens pas à être vue avec toi. J'ai opté pour le contrôle bulot-visé permanent. Comme je veux grimper vite les échelons, je ne tiens pas à ce que la direction pense que j'ai quelque chose à lui cacher. Mets-toi là, juste entre la vitrine et la porte. C'est un angle mort. »
Tixou se colla bien sagement le long de l'étroit pan de mur. Babsé s'assit derrière son bureau fonctionnel et noir. Elle se mordit à les lèvres et son front se couvrit de rides horizontales et verticales. L'orangien suspendit sa respiration lorsqu'il décela le léger ronronnement des caméras de bulovision enchâssées dans les niches plafonnières en trompe-l'œil. Le silence se prolongea pendant de longues minutes. L'attention de Tixou se dirigea spontanément vers le bruissement de source, vers l'antra. Comme dans l'Ovalibus quelques jours plus tôt, il ne distingua plus l'apparence de Babsé, mais la Babsé réelle, celle qui tentait de se dissimuler sous son personnage public. Il comprit que la transformation physique de la jeune femme qui, du stade de bouton non éclos, était directement passé à celui de fleur fanée, avait été généré par son adhésion sans restriction en valeur de la compagnie. Babsé avait fait le sacrifice de sa vitalité débordante, de sa jeunesse triomphante à la CILT. Et cette dernière, pieuvre invisible et omniprésente dont chaque tentacule, chaque ramification, la maintenait fermement rivée à son grand corps hiérarchisé, la vidait peu à peu de toute sa substance vitale. Ce qui expliquait ce teint déjà cireux, parcheminé, cette mine renfrognée, ses yeux éteints, endormis, presque morts. Babsé O'Brien était en train de dépérir de l'intérieur. Elle en était consciente, mais ne savait plus comment s'en sortir. Si tel était le sort réservé à chaque employé de la compagnie, et c'était une explication possible de son inertie autodestructrice sur deux saisons. Tixou se dit qu'alors, il avait eu de la chance, beaucoup de chance, de croiser la route de la belle Afikite de Siracusa. Babsé se pencha sous le bureau, d'où elle réapparut une poignée de secondes plus tard.
« Bon, écoute, je viens de déconnecter le circuit de surveillance en simulant une panne. Ça nous laisse un peu plus d'un quart d'heure. Les vérificateurs automatiques n'entrent en action qu'au bout de 10 minutes d'interruption. Alors faisons vite, où veux-tu aller ?»
Tixou s'extirpa de sa zone d'ombre et se rapprocha du bureau.
« Sur Selpdik. La planète de l'ordre Absurate ? Ouais, c'est possible. Le problème, c'est que chaque transfert est automatiquement enregistré au siège central, et que maintenant les coordonnées sont transmises au mémodisque central de l'interliste de Siracusa. De plus, si l'argent correspondant au voyage n'est pas instantanément versé sur le compte bancaire de la compagnie, les inspo-bots se mettent immédiatement en action. Ce n'est pas simple. Qu'est-ce que tu proposes?
Il reste une seule solution. Simuler aussi l'entrée de l'argent sur le compte. Le temps que le bureau des contrôles réagisse, ça laisse une journée pour se retourner et fabriquer une histoire plausible.
Je suis déjà grillé. Tu n'auras qu'à dire que je t'ai menacé avec une arme ou un truc du même genre.
Ouais, c'est quelque chose qui peut coller, marmonna l'Issigorienne avec une petite moue dubitative. J'y avais déjà pensé.
Tixou se pencha sur le bureau et ficha son regard dans celui de Babsé.
Tu peux faire ça pour moi?
Gênée, la jeune femme détourna les yeux et s'absorba dans ses pensées.
« Bon Dieu, t'es toujours aussi bouché, toi » explosa-t-elle soudain. « Je viens de te dire que les bécanes sont sous contrôle de l'interlice. La boîte a été autorisée à conserver ses appareils à la seule condition que les coordonnées complètes des transferts, nom du passager, contrôle ADN, destination, soient simultanément transmises aux centrales des flics.
« Il n'y a qu'à leur donner de fausses coordonnées, » suggéra Tixou.
« Facile à dire. Toi, tu es passé de l'autre côté. Tu es un renégat. Tu as vu les croix de feu? Elles sont chaque jour plus nombreuses à Duptina. Eh bien, figure-toi que je ne tiens pas, mais alors pas du tout, à finir rôti dans l'une de ces bouilloires publiques. Et pourtant, ce qui risque de m'arriver s'ils découvrent que j'ai aidé un type à passer clandestinement sur la planète de l'ordre Absurat. Qui plus est, un employé de la compagnie formé au même stage que moi.
Je ne sais pas, et... je ne veux pas savoir ce qui t'a poussé à te foutre dans un tel merdier, mais je doute que ce soit pour des raisons avouables, pas vrai?
Je comprends, Babsé, murmura Tixou avec une pointe de dépit. Si tu ne veux pas compromettre ton plan de carrière, il vaut certainement mieux que tu restes à l'écart. Laisse-moi au moins te rassurer sur un point, les croix de feu sont réservées aux hérétiques.
Un silence pesant s'installa entre eux. Les yeux noisettes de Babsé voltigèrent d'un point à l'autre de la pièce comme des papillons pris au piège. Tixou pensa qu'il n'y avait plus grand-chose à attendre d'elle et que, même, il lui en avait trop dit. Elle avait atteint le point de non-retour. Elle était devenue un clone de la CILT, quelqu'un qui faisait passer ses intérêts et ceux de la compagnie avant les sentiments. C'est pourquoi il fut très surpris de l'entendre dire
« Les vérificateurs vont se déclencher et je vais devoir reconnecter les caméras. Je ne peux pas simuler une seconde panne dans l'immédiat, ça éveillerait les soupçons. De ton côté, tu ne peux pas rester là. Des clients risquent de se pointer d'un moment à l'autre. Voici ce que nous allons faire. Tu vas aller te balader en ville et tu reviendras en début d'après-midi. Je déclencherai une nouvelle panne de surveillance et je te ferai passer sur celle d'IC. On tâchera de te dénicher une identité acceptable dans mon fichier client. Rendez-vous à 29h local. Et maintenant fous le camp avant que je regrette cette connerie. »
Tixou examina l'Issigorienne dont les yeux fuyants, transpercés de fulgurants éclairs de lumière, trahissaient une furieuse bataille intérieure dont il ne parvint pas à deviner l'issue. Elle avait été trop proche de lui dans le passé. Il l'avait désirée, il l'avait embrassée, il l'avait caressée, il avait pénétré sa chair. Les souvenirs n'étaient pas encore tout à fait effacés. Les odeurs, les sensations entremêlées altéraient sa discrimination, obstruaient le sentier de son intuition. Dans le doute, il décida de faire confiance à Babsé, au nom de ce début d'affection qui les avait unis, au nom de ce corps juvénile et maladroit qui lui avait permis d'oublier parfois sa solitude et le climat glacial de la planète Ours.
« Merci, Bab, et à tout à l'heure, » dit-il simplement. « Ouais, n'oublie pas. 29h locale. »
Tixou déambula une bonne partie de la matinée entre les groupes de badauds suspendus aux écrans bulles qui flottaient dans les rues, sous les tentures hauts aux formes changeantes et les bannières or et blanc du Nouvel Empire. Duptina était paralysé, hypnotisé par ces images holographiques que la bullovision lui jetait en pâture. Les marquinatins écoutaient de toutes leurs oreilles les discours fleuris et interminables des nouveaux dignitaires de l'Empire.
cette musique lancinante et doucereuse qui annonçait crânement l'avènement de l'âge d'or, d'un air de prospérité et de paix sans précédent dans l'histoire des mondes recensés, pour peu, bien entendu, que les peuples de l'ancienne Confédération, cette organisation rétrograde et injuste, comprennent rapidement où se situait leur intérêt. Le moufti Barofil le 24e prononça une violente diatribe et se répandit en anathème contre les ennemis de la religion. Le verbe vrai ne tolérait aucun schisme, aucune déviation, aucune hétérodoxie, aucune hérésie, et les représentants du Kreutz sur les mondes de l'en bas avaient le devoir de châtier sans pitié les impies, les incroyants, les apostats et autres païens. L'orangien croisa une patrouille d'interliciers et de mercenaires de Prithiv, rails de leurs lance-disques découverts sur leur avant-bras. Ses entrailles se pincèrent, mais l'entra, le serpent vigilant, déroula ses anneaux sonores, chassa son appréhension et recréa aussitôt le calme dans son esprit. Vers 23 heures, il dut presque supplier un marchand ambulant de bien vouloir lui servir un peu de nourriture. L'autre, agacé, lui jeta de mauvaise grâce 3 galettes à moitié cuites sur l'étal de bois huileux et se replongea corps et âme dans la contemplation du petit écran bulle stabilisé 1 mètre au-dessus de sa tête. Roi d'argent atteignit son zénith et Cheval de feu, son successeur roux et flamboyant, décocha ses premières flèches de feu à l'horizon. Une horloge murale indiquait 28 heures. Tixou reprit le chemin de l'agence. Les ovalibus atterrissaient et décollaient à vide des stations aériennes désertes. Au fur et à mesure qu'il progressait, une voix intérieure s'éleva en lui et le pria de rebrousser chemin. Il l'étouffa sans ménagement. Il n'envisageait pas d'autre solution que celle proposée par Babsé. Il bouillait d'une telle impatience de gagner Selbdik, il se refusait catégoriquement à renoncer au dernier moment. Il pressentait qu'un nouveau délai signifierait la ruine totale et irrémédiable de ses espoirs déjà chancelants. Les ruelles qui jouxtaient le large boulevard où se trouvait l'agence étaient peu fréquentées, n'y déambulaient que quelques silhouettes pressées, furtives, discrètes. Sa voix intérieure refit surface, comme la sirène d'une alarme tenace qui retentit et s'amplifie lorsque le danger se précise. Tixou la refoula pour la 2e fois, mais ralentit inconsciemment sa marche. Tout à coup, les rues ne lui parurent plus aussi neutres, aussi vides qu'avant. Il se sentit environné de présences invisibles et menaçantes. Son pouls et sa respiration s'accélérèrent. « Arrête-toi !» ordonna sa voix intérieure. Cette fois-ci, il lui obéit et se plaqua contre le mur gris et raboteux d'un immeuble. De cet endroit, il apercevait les eaux guineux bordant le boulevard ainsi que les lettres clignotantes du dôme de l'agence qui transperçaient les frondaisons ajourées des arbres géants. Il demeura indécis, immobile contre le mur, et ferma machinalement les yeux. L'entrée expulsa immédiatement ses pensées parasites. Le signal d'alarme continua de retentir dans son organisme et de l'inciter à la panique. Mais il résista à la folle tentation de rouvrir les yeux et de prendre la fuite. Son corps le suppliait de partir et l'antra le contraignait à rester sur place. Il eut la sensation de se dédoubler, de se fractionner, de se séparer de lui-même. Puis des images d'une précision étonnante apparurent dans son sanctuaire de silence. Il se retrouva subitement dans l'agence de Babsé. Pourtant son corps n'avait pas bougé de la rue. L'Issigorienne était assise derrière son bureau noir. Son calme apparent était démenti par les coups d'œil fréquents et furtifs qu'elle jetait à la cabas vert-tilleul, statufiée entre la porte et la vitrine, à l'endroit même où Tixou s'était tenu quelques heures plus tôt. La tête du skite d'Hipponeros disparaissait sous l'ample capuchon de son vêtement. Comme une caméra autoguidée, Tixou glissa dans l'autre pièce et découvrit des mercenaires de Prithiv tapis derrière la porte. Il entendait également tous les bruits amplifiés, la respiration saccadée de Babsé, le tapotement de ses doigts sur le bois du bureau, le froissement de ses cuisses qui se croisaient et se décroisaient sans cesse. La jeune femme, de plus en plus nerveuse, regarda la pendule et s'adressa au skate lecteur. « Il ne devrait plus tarder. » Une voix métallique sortit du capuchon de la caba.
« Vous êtes sûr ? En ce cas, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à détecter sa présence. » Vous ne m'avez pas menti pourtant. Curieux, il y a peut-être de la sorcellerie là-dessous.
« C'est c'est possible ? Murmura Babsé mal à l'aise. Il veut se rendre sur Celtdic, chez les chevaliers Absoates.
Ces maudits hérétiques recevront bientôt le sort qu'ils méritent, dit le skite d'un ton monocorde. Si vos informations se vérifient, damoiselle, il y a de fortes chances pour que vous obteniez votre mutation à Vénitia plus tôt que prévu.
Babsé eut un drôle de sourire, à la fois satisfait et amer, tandis que d'intermittentes lueurs de désespoir s'allumaient dans ses yeux noisettes. Un crissement métallique retentit quelque part à proximité de Tixou. Il recouvra aussitôt sa perception sensorielle physique de la rue. Il ouvrit les yeux et aperçut le rail scintillant d'un lance-disque qu'un mercenaire de Prithiv pointait sur lui une vingtaine de pas plus loin. Ses glandes surrénales libérèrent une violente décharge d'adrénaline. Une voix nasillarde jaillit de la fente buccale du masque blanc.
« Bouge pas !»
Tixou observa rapidement la disposition des lieux. La plus proche intersection n'était qu'à 10 mètres, à l'angle de l'immeuble auquel il s'était adossé. D'autres mercenaires, alertés par le cri de leur complanétaire, débouchaient déjà des ruelles adjacentes. Quelques badauds fourvoyés, effrayés par ce soudain branle-bas de combat, ces bruits de pas précipités, ces glapissements stridents, se figèrent sur place. Les taux se resserraient très vite sur Tixou, dont la respiration se suspendit. Il laissa encore s'approcher les mercenaires, puis il contracta les muscles de ses jambes, se rua vers l'intersection et se jeta dans la première traboule qui s'ouvrait sur sa droite. Un disque tournoyant vint percuter le mur et cailla le crépi gris et retomba en vibrant au pied d'un passant terrifié. Tixou s'abstint de regarder derrière lui, remonta en courant la courte traboule puis s'engagea dans une ruelle sinueuse. Il perçut les cris et la cavalcade des mercenaires lancés à ses trousses. Il bouscula sans ménagement quelques piétons solitaires, fendit des grappes de spectateurs pendus aux écrambules. Il bifurqua à gauche, à droite, encore à gauche, enfila les rues au petit bonheur jusqu'au moment où, exténué, les poumons en feu, il dut s'arrêter pour reprendre son souffle sous l'auvent d'une boutique dont la vitrine regorgeait de figurines sculptées et d'objets sacrés des cultes marquinatins traditionnels. Il s'aperçut alors que sa fuite éperdue l'avait conduit tout droit dans la rue de l'orfèvre sacré. Son pouls affolé martelait sa poitrine et ses tempes. Il prêta l'oreille, mais ne décela plus aucun bruit. Il pensa qu'il avait réussi à semer les mercenaires. Il ignorait que ces derniers avaient renoncé à le courser dans le labyrinthe des vieilles ruelles du Pinatine. Ils n'avaient nul besoin de se presser. Ils avaient transmis ses coordonnées olfactives à une sonde automatique et l'avaient lancé sur ses traces. Un limier lent mais infaillible. Il savait que la petite soucoupe noire et ronronnante qui volait 1 mètre au-dessus du sol et qui épousait chaque méandre du parcours du fugitif les amènerait tôt ou tard à leur proie. Tixou repéra l'atelier de Géofo à Nidole. Il constata que les volets de bois étaient ouverts et que seule la boutique restait close. L'ancien correspondant de Long Choupaé était de retour plus tôt que prévu. L'orangien, toujours essoufflé, n'hésita pas. Il traversa la rue d'un pas décidé et, au lieu de sonner comme lors de sa première visite, tourna la poignée manuelle de la porte d'entrée qui s'ouvrit sans résistance. Il pénétra silencieusement dans le corridor sombre de la maison. La porte de bois massif grinça sur ses gonds en se refermant. Une voix féminine provenant d'une pièce du fond le héla.
« C'est vous, Joabti ?»
Tixou emprunta un couloir plongé dans la pénombre, imprégné des amères odeurs de métal en fusion et de cire à statue. Il déboucha dans l'atelier une longue verrière attenant à la maison. Au fond, une baie vitrée était ouverte sur une petite cour intérieure délimitée par un mur de pierre blanche. La lumière du jour entrait à flots, éclaboussait les épais panneaux vitrés translucides de teintes argentées ou mordorées. Deux femmes s'affairaient en silence au milieu d'une armée figée de statuettes et de pièces d'orfèvrerie que les larges rayons de rois d'argent et de cheval de feu criblaient d'éclats scintillants. Elles surveillaient attentivement les évolutions d'un automate aspirateur de poussière et de débris, un robot ventru et difforme dont elles programmaient le plan de travail sur une console portable. De temps à autre, elles étaient obligées de libérer manuellement et de repositionner l'un de ces tentacules souples coincés sous une étagère. Elles n'étaient pas très jolies, courtaudes, épaisses, dotées de visages ronds et disgracieux, et de chevelures ramenées en chignon qui accentuaient leur air sévère,
rébarbatif, vêtu de grossières robes taillées d'une seule pièce dans un pan de toile à mi-donner, elles se ressemblaient trait pour trait comme deux fruits d'un même arbre. Le robot glouton débarrassait minutieusement chaque objet de sa poussière ou de ses taches d'humidité. Il émettait un chuintement étouffé qui se transformait en sifflement aigu dès qu'un tentacule s'aventurait dans un recoin d'où il ne pouvait pas se dépêtrer. Son tronc lisse était alors le jouet d'une violente colère que seules les mains agiles des femmes parvenaient à calmer. Elles ne remarquèrent pas la présence de Tixou jusqu'à ce que l'une d'elles, saisie d'un brusque pressentiment, relève la tête et l'aperçoive, debout dans l'embrasure de la porte de l'atelier. Ses yeux pâles, délayés, s'agrandirent de terreur. Elle fit trois pas en arrière et s'emberlificota dans les tentacules de l'automate qui se mit à siffler comme une hydre de légende. L'autre eut une réaction similaire. Une peur démesurée s'afficha sur sa face lunaire. Elle réussit cependant à hoqueter.
« Qui êtes-vous »«
Connaissez-vous l'orfèvre Géopho Anidole ?» demanda l'orangien d'une voix forte pour dominer le raffut produit par le robot.
« Pourquoi ? Qu'est-ce que vous lui voulez ?» rétorqua la femme sur la défensive. « Et puis on n'entre pas comme ça chez les gens !»
Tixou sourit aimablement. Il ne fallait surtout pas effaroucher ses interlocutrices. Le moindre courant d'air aurait probablement suffi à les terroriser.
« Veuillez me pardonner. J'ai sonné, mais vous ne m'avez sans doute pas entendu, » expliqua-t-il calmement. « Je voudrais parler à Géopho Anidole. Une affaire urgente et très importante.
Nous sommes ses filles,
aboya la femme dont la mine, déjà revêche, se renfrogna encore davantage.
Vous arrivez trop tard, monsieur. Notre père a été arrêté ce matin par ses...
La moue de mépris qui affleurait sur ses lèvres s'estompa. Elle se rendait compte qu'elle était sur le point de dévoiler ses sentiments à un inconnu dont elle ignorait totalement les intentions.
Par ces hommes masqués de blanc. Ce matin, au retour de sa tournée mensuelle des ateliers provinciaux.
La seconde femme se dégagea des tentacules du robot. Le vacarme cessa instantanément.
Papa était à peine descendu de la première navette de l'aube qu'ils lui ont mis le grappin dessus,
enchérit-elle en refoulant des larmes.
Nous étions à l'aérotube quand ça s'est passé. Nous n'avons plus aucune nouvelle de lui. Pourquoi désirez-vous le voir ?
L'arrestation de l'orfèvre n'arrangeait pas les affaires de Tixou. Elle expliquait en tout cas l'atmosphère lugubre qui planait sur la maison et la nervosité de ses deux filles.
« Je venais lui souhaiter le bonjour d'un vieil ami à lui, » reprit l'orangien. « Peut-être le connaissez-vous. Son nom est Long Chou Pae. »
Elles se lancèrent un bref coup d'œil en coin.
« Le chevalier ?»
murmura celle qui paraissait la plus âgée. Tixou perçut dans le son de sa voix un léger revirement d'attitude à son égard, comme si elle se décidait enfin à classer ce visiteur importun dans la catégorie de ses alliés.
« Oui, c'est cela, le chevalier de l'ordre Absurat, » appuya l'orangien.
« Nous ne le connaissons pas personnellement, mais papa nous a souvent parlé de lui, »
déclara la plus jeune.
« Il lui vouait une admiration sans bornes. L'avez-vous rencontré récemment ?»
« Il y a 4 jours, sur Point Rouge. C'est lui qui m'a donné votre adresse. Je dois me transférer immédiatement sur Selbdik, la planète de l'Ordre, et le chevalier m'a certifié que votre père possédait un déromate, une machine à voyager par transfert de cellules. Une antiquité, paraît-il, mais qui pourrait peut-être rendre un ultime service. On ne vous l'a pas réquisitionné, au moins ?»«
Vous voulez sans doute parler de cette grosse boule noire qui traîne dans le grenier ?»
dit la plus âgée.
Elle est toujours là, mais ça fait des années qu'elle n'a pas fonctionné. Quand nous étions petites, c'était notre maison de jeu.
Pouvez-vous me conduire jusqu'à cette machine, s'il vous plaît ? Demanda Tixou, masquant de son mieux l'excitation qui le gagnait. Le temps presse et l'enjeu est très important. L'arrestation de votre père prouve que nous devons agir vite. Je suis spécialiste des machines de transfert. Et il ne me faudra qu'une minute pour savoir si elle est toujours en état de marche.
Elles se consultèrent une nouvelle fois du regard. Chacune guettait l'approbation sur le visage de l'autre.
« Venez, montons au grenier, elle n'en a jamais bougé depuis plus de 20 ans. »
Les doigts de la plus jeune pianotèrent sur la console. Les interminables tentacules souples du robot vinrent sagement se nicher dans son tronc cylindrique.
« Je suis Isalika, elle c'est Sofren,
ma cadette de 3 ans.
Si cela ne vous dérange pas, je préfère ne pas vous donner mon nom, dit Tixou. Ce n'est pas un manque de courtoisie. Je ne voudrais pas que vous ayez des ennuis à cause de moi.
Nous comprenons très bien. Venez.
Ils gravirent un escalier en colimaçon dont la bouche s'ouvrait sur un couloir sombre reliant la boutique à l'atelier. Les marches inégales et branlantes étaient plongées dans une obscurité opaque. Le bois vermoulu gémissait sous leurs pas. Tixou trébucha à 3 reprises, mais il se rattrapa à la rampe scellée dans le mur. Sur le palier du grenier, Izalika émit un sifflement prolongé. Une bulle flottante sensitive s'emplit de lumière blanche et révéla l'invraisemblable capharnaüm qui régnait sous les combles. Bric-à-brac de poupées désarticulées, les fameuses cisottes, antiques meubles éventrés, fripes lacérées, lambeaux de tissu, peaux de cire à statue, pinceaux usés, boîtes à émulsion lumineuse. Une multitude de clous rouillés ou de petits blocs de bois, dont certains avaient visiblement servi à familiariser des mains enfantines avec la sculpture, jonchait une moquette bleue usée jusqu'à la trame. Une odeur de poussière et de moisissure imprégnait l'air confiné. La lumière crue de la bulle flottante étira les ombres sur les murs bas et les chevrons apparents tendus de toiles d'araignée.
« Papa voulait que nous devenions orfèvres comme lui, mais nous n'étions vraiment pas doués, » dit Sophrène.
« Ça ne serait pas du luxe d'envoyer Fofo. C'est le surnom du robot. Faire un petit séjour ici, » ajouta Izalika. Elle poussait du pied des monceaux de déchets métalliques. Le faisceau de la bulle caressait délicatement le flanc lisse et rebondi d'une sphère noire tapie dans un recoin de la mansarde.
« Voici la machine. »
Elle était à demi enfouie sous des cartonnages grossièrement empilés sur lesquels s'étalaient, en lettres rouges recouvertes d'un linceul de poussière, les noms et les adresses des fournisseurs de l'atelier. Au premier regard, Tixou vit qu'il s'agissait effectivement d'un matériel obsolète dont le paramétreur ne possédait pas la précision macrométrée des déromates modernes. Avec une machine de ce genre, il avait à peu près 1 chance sur 2 d'être rematérialisé dans l'espace, où il se volatiliserait en une pluie de microparticules, et, au cas où elle se déciderait à le transférer sur Celdic, 9 chances sur 10 d'arriver n'importe où, aussi bien dans une rue que sur le toit d'une maison, ou encore dans l'océan qui recouvrait les 9/10 de la planète. Il s'approcha de la sphère et posa les mains sur son ventre rebondi. « Pouvez-vous diriger la bulle sur le hublot ? » demanda-t-il à Izalika. Guidé par les sifflements de la fille de Géofo Anidole, la bulle traversa le grenier, se stabilisa au-dessus de la machine et éclaira un infime renflement de verre. Les fabricants des premiers modèles de déromates n'avaient pas jugé bon d'installer des sas latéraux. Il fallait donc faire un peu de gymnastique pour se glisser dans la cabine de transfert. Tixou dégagea les barreaux de l'échelle de montée enfouie sous un amoncellement de cartons pliés. La poussière s'infiltra dans ses narines et dans sa gorge. Il se hissa au sommet de la machine et déverrouilla le hublot qui se dressa à la verticale. Un hurlement transperça brusquement les murs et le toit de la maison.
« Izalika, Sophrène, les hommes en gris, ils sont là, ils !»
Les cris s'étranglèrent en un râle prolongé.
« C'était la voix de Joabti, notre voisin, » murmura Izalika livide. « Mon Dieu, que nous veulent-ils ? »
« Ce n'est pas pour vous qu'ils viennent, mais pour moi, » souffla l'Orangien. « Ils m'ont retrouvé. Je croyais bien les avoir semés. Dites-leur que je vous ai forcé à m'aider. Merci et adieu. » Il engagea ses jambes et ses hanches dans le tube de descente de la cabine. Puis il s'engouffra tout entier dans les entrailles du vieux téléporteur. La bulle flottante se vidait de son énergie et il ne voyait pratiquement plus rien. Tâtonnant, se cognant la tête aux arêtes métalliques, il parvint à localiser le programmateur. Un clavier aux touches circulaires et dorées directement relié au mémodisque de désintégration sans passer par le circuit électronique de vérification. Impossible de contrôler le bon fonctionnement de la reconstitution cellulaire. La machine pouvait très bien ne rematérialiser qu'une partie de son corps ou encore mélanger les données. Il avait déjà vu sur une vidéo-lo qu'un instructeur avait passé au stagiaire sur Ours ce que donnait un transfert partiel. Des corps difformes, méconnaissables, monstrueux. Mais il n'avait pas d'autre choix que de courir le risque. Il appuya sur le locto de commande manuel du programmateur et attendit que les instructions de saisie des données apparaissent sur l'écran bombé et noir. Il n'avait que de vagues souvenirs des coordonnées spatiales de Celdic.
il se maudit de sa stupidité. Il aurait dû aller se rafraîchir la mémoire dans une agence touristique ou dans un institut géostellaire. La meute s'introduisit dans la boutique puis dans l'atelier. Des bruits de pas, de voix, de portes claquées à la volée perforèrent le plancher. Les deux filles de l'orfèvre s'agrippèrent l'une à l'autre et restèrent pétrifiées au milieu du grenier. L'écran bombé ne s'allumait toujours pas. Fébrile, Tixou passa la main sous le tableau de bord et se rendit compte que le programmateur avait été déconnecté du filtreur de particules. Probablement une mesure de précaution prise par Géofo à Nidol. Ses filles avaient dit à Tixou qu'enfant, elles avaient l'habitude de jouer à l'intérieur de la machine. L'orfèvre avait eu peur qu'elle ne commette une irréparable bêtise. Les doigts de l'orangien cherchèrent en vain le câble manquant. La bulle lumière à l'agonie menaçait de s'éteindre à tout moment. D'épaisses gouttes de transpiration perlaient sur son front et lui dégoulinaient dans les yeux. Ses gestes étaient imprécis, maladroits. Sa vessie se gonflait comme un ballon sur le point de crever. Il arracha brutalement un câble annexe qui pendait sous la couchette sommaire du passager. Il espéra que ce fil ne revêtait pas une importance capitale pour la mise en route du déromat. Il le dénuda rapidement à coups d'ongles et de dents, l'enroula sommairement autour du programmateur puis du filtreur. Des taches de lumière dansèrent sur l'écran. Il pria que cette connexion de fortune supporte le choc de la montée d'énergie. Ses mains étaient trempées de sueur. Il entendait à présent les cris de ses poursuivants. Un liquide tiède coula dans son pantalon. Peut-être bien que c'était sa propre urine. Tixou, Voti, pauvre mortel. Les lignes de données se stabilisèrent enfin sur l'écran. La cabine était maintenant baignée d'une couleur diffuse, verdâtre. Il localisa les touches du clavier et composa les coordonnées succinctes de cette dique. Il fut saisi d'un ultime doute. Ne s'était-il pas trompé? Il avait appris par cœur les coordonnées de toutes les planètes de la Confédération lors du stage sur Ours. Mais c'était loin, si loin. Un autre monde, un autre temps. Il se laissa tomber sur la couchette. Le sort en était jeté. Il y eut un grésillement, puis un crachotement poussif, et enfin un tremblement sinistre. Il crut que ce vieux tas de ferraille rouillée explosait. Et c'est peut-être bien ce qui se passa. La sonde se dirigea vers la moule noire dont les jointures, pratiquement disloquées, gémissaient sourdement. Les mercenaires s'engouffrèrent dans le grenier. Les rayons mouvants de leurs torches lasers éclaboussèrent Isalika et Sofren glacés d'effroi. Les deux filles de l'orfèvre n'opposèrent aucune résistance lorsqu'ils leur passèrent un collier magnétique autour du cou. Un mercenaire se rua sur les barreaux de l'échelle de montée du vieux Dermat. Les vibrations trépidantes qui secouaient la sphère noire l'empêchèrent de déverrouiller le hublot. Il fractura le verre à main nue et plongea comme un forcené dans le tube. Il ressortit une minute plus tard, brandissant une veste de laine bleue, un pantalon de velours noir, des vêtements de coton blanc et une paire de bottes marquinatine.
« Il s'est programmé pour Celdic. Les coordonnées de destination sont encore visibles. Pas possible que cette vieillerie ait pu l'expédier dans les étoiles. Elle n'a même pas l'air capable de transférer quelqu'un jusqu'à la plage Jachai Wortling. »
Celdic, la fille de la CILT avait raison, intervint une voix métallique. Le skate lecteur s'extirpa de la pénombre du palier.
Dommage, j'aurais aimé savoir comment son esprit, un esprit tout ce qu'il y a de plus ordinaire, peut échapper aux perquisitions mentales. Tant pis, puisque cet imbécile tient tant à rejoindre ses amis de l'ordre Absurat, il mourra avec eux. Lui, la fille du Syracusain, et tous les autres, tous. Et tout reliquat de sorcellerie sera ainsi gommé de la surface des mondes recensés. Quant à ces damoiselles, elles vont apprendre ce qu'il en coûte de prêter assistance aux ennemis de l'Empereur. Je vous les laisse pendant une heure, messieurs. Faites d'elles ce que bon vous semblera. Puis vous les conduirez à la ronde maison. Elles subiront le châtiment réservé aux traîtres, comme leur père. Vous réduirez également cette machine en cendres.
Lorsque les assassins de la secte de Prithiv en eurent assez de jouer avec Isalika et Sofren, ils les abandonnèrent, allongés, nus, ensanglantés, tremblantes, humiliées, aussi désarticulées que leurs poupées, sur le parquet poussiéreux du grenier.
Puis ils braquèrent une poire à rayons momifiants sur la machine noire.